Edgar Allan Poe. Extrait de Nouvelles histoires extraordinaires. Je n'ai jamais connu personne qui eût plus d'entrain et qui fût plus porté à la facétie que ce brave roi. Il ne vivait que pour les farces. Raconter une bonne histoire dans le genre bouffon, et l'a bien raconté, c'était le plus sur chemin pour arriver à sa faveur. C'est pourquoi ses 7 ministres étaient tous gens distingués par leur talent de farceur. Ils étaient tous taillés d'après le patron royal. Vaste corpulence, adiposité, inimitable aptitude pour la bouffonnerie. Que les gens en Grèce par la farce, ou qu'il y ait dans la Grèce quelque chose qui prédispose à la farce, c'est une question que je n'ai jamais pu décider. Mais il est certain qu'une farceur maigre peut s'appeler « rara avis in terris ». Quant au raffinement, ou ombre de l'esprit, comme il les appelait lui-même, le roi s'en souciait médiocrement. Il avait une admiration spéciale pour la largeur dans la facétie, et il la digérait même en longueur pour l'amour d'elle. Les délicatesses l'ennuyaient. Il aurait préféré le Gargantua de Rabelais aux Zadigs de Voltaire, et, par-dessus tout, les bouffonneries en action accommodaient son goût bien mieux encore que les plaisanteries en parole. À l'époque où se passe cette histoire, les bouffons de profession n'étaient pas tout à fait passés de mode à la cour. Quelques-unes des grandes puissances continentales gardaient encore leur fou. C'étaient des malheureux, bariolés, ornés de bonnets à sonnettes, et qui devaient être toujours prêts à livrer, à la minute, des bons mots subtils en échange des miettes qui tombaient de la table royale. Notre roi, naturellement, avait son fou. Le fait est qu'il sentait le besoin de quelque chose dans le sens de la folie, ne fût-ce que pour contrebalancer la pesante sagesse des 7 hommes sages qui lui servaient de ministre, pour ne pas parler de lui. Néanmoins, son fou, son bouffon de profession, n'était pas seulement un fou. Sa valeur était triplée aux yeux du roi par le fait qu'il était en même temps nain et boiteux. Dans ce temps-là, les nains étaient à la cour aussi communs que les fous, et plusieurs monarques auraient trouvé difficile de passer leur temps, le temps est plus long à la cour que partout ailleurs, sans un bouffon pour les faire rire et un nain pour en rire. Mais, comme je l'ai déjà remarqué, tous ces bouffons, dans 99 cas sur 100, sont gras, ronds et massifs. De sorte que c'était pour notre roi une ample source d'orgueil de posséder, dans Hop Frog, c'était le nom du fou, un triple trésor en une seule personne. Je crois que le nom de Hop Frog n'était pas celui dont l'avaient baptisé ses parrains, mais qui lui avait été conféré par l'assentiment unanime des 7 ministres en raison de son impuissance à marcher comme les autres hommes. Dans le fait, Hop Frog ne pouvait se mouvoir qu'avec une sorte d'allure interjectionnelle. Quelque chose entre le saut et le tortillement. Une espèce de mouvement qui était pour le roi une récréation perpétuelle et naturellement une jouissance. Car, nonobstant la proéminence de sa panse et une bouffissure constitutionnelle de la tête, le roi passait aux yeux de toute sa cour pour un fort bel homme. Mais, bien que Hop Frog, grâce à la distorsion de ses jambes, ne pût se mouvoir que très laborieusement dans un chemin ou sur un parquet, la prodigieuse puissance musculaire, dont la nature avait doué ses bras, comme pour compenser l'imperfection de ses membres inférieurs, le rendait apte à accomplir maints traits d'une étonnante dextérité, quand il s'agissait d'arbres, de cordes ou de quoi que ce soit où l'on pût grimper. Dans ces exercices-là, il avait plutôt l'air d'un écureuil ou d'un singe que d'une grenouille. Je ne saurais dire précisément de quel pays Hop Frog était originaire. Il venait sans doute de quelques régions barbares dont personne n'avait entendu parler, à une vaste distance de la cour de notre roi. Hop Frog est une jeune fille, un peu moins naine que lui, mais admirablement bien proportionnée et excellente danseuse, avait été enlevée à leur foyer respectif dans des provinces limitrophes et envoyée en présent au roi par un de ses généraux chéris de la victoire. Dans de pareilles circonstances, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une étroite intimité se fût établie entre les deux petits captifs. En réalité, ils devinrent bien vite deux amis jurés. Hop Frog, qui, bien qu'il se mît en grand frais de bouffonnerie, n'était nullement populaire, ne pouvait pas rendre à Tripeta de grands services, mais elle, en raison de sa grâce et de son exquise beauté, de naine, elle était universellement admirée et choyée. Elle possédait donc beaucoup d'influence et ne manquait jamais d'en user en toute occasion au profit de son cher Hop Frog. Dans une grande occasion solennelle, je ne sais plus laquelle, le roi résolut de donner un bal masqué. Et chaque fois qu'une mascarade ou toute autre fête de ce genre avait lieu à la cour, les talents de Hop Frog et de Tripeta étaient à coup sûr mis en réquisition. Hop Frog, particulièrement, était si inventif en matière de décoration, de type nouveau et de travestissement pour les bals masqués qu'il semblait que rien ne pût se faire sans son assistance. La nuit, marquée pour la fête, était arrivée. Une salle splendide avait été disposée sous l'œil de Tripeta, avec toute l'ingéniosité possible pour donner de l'éclat à une mascarade. Toute la cour était dans la fièvre de l'attente. Quant aux costumes et aux rôles, chacun, on le pense bien, avait fait son choix en cette matière. Beaucoup de personnes avaient déterminé les rôles qu'elles adopteraient une semaine ou même un mois d'avance. Et en somme, il n'y avait incertitude ni indécision nulle part. Excepté chez le roi et ses 7 ministres. Pourquoi hésitait-il? Je ne saurais le dire. À moins que ce fût encore une manière de farce. Plus vraisemblablement, il aurait été difficile d'attraper leurs idées, à cause qu'ils étaient si gros. Quoi qu'il en soit, le temps fuyait, et comme dernière ressource, ils envoyèrent chercher Tripeta et Hop Frog. Quand les deux petits amis obéirent à l'ordre du roi, ils le trouvèrent prenant royalement le vin avec les 7 membres de son conseil privé. Mais le monarque semblait de fort mauvaise humeur. Il savait que Hop Frog craignait le vin, car cette boisson excitait le pauvre boiteux jusqu'à la folie. Et la folie n'est pas une manière de se sentir bien réjouissante. Mais le roi aimait ses propres charges et prenait plaisir à forcer Hop Frog à boire et, suivant l'expression royale, à être gai. « Viens ici, Hop Frog, » dit-il, comme le bouffon et son ami entraient dans la chambre. « Avale-moi cette rasade à la santé de vos amis absents. » Ici, Hop Frog soupira. « Et serre-nous de ton imaginative. Nous avons besoin de types. » De caractère, mon brave, de quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Nous sommes fatigués de cette éternelle monotonie. Allons, bois! Le vin allumera ton génie. Hop Frog s'efforça, comme d'habitude, de répondre par un bon mot aux avances du roi. Mais l'effort fut trop grand. C'était justement le jour de naissance du pauvre nain. Et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Quelques larges gouttes amères tombèrent dans la coupe pendant qu'il la recevait humblement de la main de son tyran. « rugit ce dernier comme le nain épuisait la coupe avec répugnance.
« Vois ce que peut faire un verre de bon vin !»«
Et tes yeux brillent déjà !»
Pauvre garçon, ses larges yeux étincelaient plus tôt qu'ils ne brillaient, car l'effet du vin sur son excitable cervelle était aussi puissant qu'instantané. il plaça nerveusement le gobelet sur la table et promena sur l'assistance un regard fixe et presque fou. Ils semblaient tous s'amuser prodigieusement du succès de la farce royale.
« Eh bien maintenant, à l'ouvrage !» dit le Premier ministre, un très gros homme.
« Oui !» dit le roi.
« Allons !»«
Hop Frog, prête-nous ton assistance. Des types, mon beau garçon, des caractères, nous avons besoin de caractères, nous en avons tous besoin.
» Et comme ceux-ci visaient sérieusement au bon mot, ils firent tous sept chorus au rire royal. Hop Frog rit aussi, mais faiblement et d'un rire distrait.
« Allons, allons !» dit le roi, impatienté.
« Est-ce que tu ne trouves rien ?»«
Je tâche de trouver quelque chose de nouveau, » répéta le nain d'un air perdu, car il était tout à fait égaré par le vin.
« Tu tâches ?» cria le tyran férocement. Qu'entends-tu par ce mot ? Ah, je comprends, vous boudez et il vous faut encore du vin. Tiens, avale ça.
Et il remplit une nouvelle coupe et la tendit toute pleine au boiteux qui la regarda et respira comme essoufflé.
Bois, te dis-je, cria le monstre, ou par les démons ?
Le nain hésitait. Le roi devint pourpre de rage. Les courtisans souriaient cruellement. Tripetta, pâle comme un cadavre, s'avança jusqu'au siège du monarque et, s'agenouillant devant lui, elle le supplia d'épargner son ami. Le tyran la regarda pendant quelques instants, évidemment stupéfait d'une pareille audace. Il semblait ne savoir que dire ni que faire,
ni comment exprimer son indignation d'une manière suffisante.
À la fin, sans prononcer une syllabe, il la repoussa violemment loin de lui et lui jeta à la face le contenu de la coupe pleine jusqu'au bord. La pauvre petite se releva du mieux qu'elle put et, n'osant pas même soupirer, elle reprit sa place au pied de la table. Il y eut, pendant une demi-minute, un silence de mort, pendant lequel on aurait entendu tomber une feuille, une plume. Ce silence fut interrompu par une espèce de grincement sourd, mais rauque et prolongé, qui sembla jaillir tout d'un coup de tous les coins de la chambre.
« Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ce bruit ?»
demanda le roi, se retournant avec fureur vers le nain. Ce dernier semblait être revenu à peu près de son ivresse et, regardant fixement mais avec tranquillité le tyran en face, il s'écria simplement
« Moi ? Comment pourrait-ce être moi ?
Le son m'a semblé venir du dehors, » observa l'un des courtisans.
« J'imagine que c'est le perroquet à la fenêtre qui aiguise son bec au barreau de sa cage. »
« C'est vrai !» répliqua le monarque, comme très soulagé par cette idée.
« Mais sur mon honneur de chevalier, j'aurais juré que c'était le grincement des dents de ce misérable !»
Là-dessus, le nain se mit à rire. Le roi était un farceur trop déterminé pour trouver à redire au rire de qui que ce fût. Et déploya une large, puissante et épouvantable rangée de dents. Bien mieux, il déclara qu'il était tout disposé à boire autant de vin qu'on voudrait. Le monarque s'apaisa, et Hop Frog, ayant absorbé une nouvelle rasade sans le moindre inconvénient, entra tout de suite, et avec chaleur, dans le plan de la mascarade.
« Je ne puis expliquer, » observa-t-il fort tranquillement et comme s'il n'avait jamais goûté de vin de sa vie, « comment s'est faite cette association d'idées. Mais juste après que votre majesté eut frappé la petite et lui eut jeté le vin à la face, juste après que votre majesté eut fait cela, et pendant que le perroquet faisait ce singulier bruit derrière la fenêtre, il m'est revenu à l'esprit un merveilleux divertissement. »
C'est un des jeux de mon pays et nous l'introduisons souvent dans nos mascarades. Mais ici, il sera absolument nouveau. Malheureusement, ceci demande une société de 8 personnes et...
Mais nous sommes 8 !
S'écria le roi, riant de sa subtile découverte.
8 juste !
Moi et mes 7 ministres ! Voyons, quel est ce divertissement ?
Nous appelons cela, dit le boiteux, les 8 orangs-outans enchaînés.
Et c'est vraiment un jeu charmant quand il est bien exécuté.
Nous l'exécuterons, dit le roi en se redressant et abaissant les paupières.
La beauté du jeu, continua Hop Frog, consiste dans l'effroi qu'il cause parmi les femmes.
Excellent !
Rugirent en chœur le monarque et son ministre.
C'est moi qui vous habillerai en orang-outan, continua le nain. Fiez-vous à moi pour tout cela. La ressemblance sera si frappante que tous les masques vous prendront pour de véritables bêtes. Et naturellement, ils seront aussi terrifiés qu'étonnés.
Oh, c'est ravissant ! S'écria le roi. Hop Frog, nous ferons de toi un homme.
Les chaînes ont pour but d'augmenter le désordre par leur tintamarre. Vous êtes censé avoir échappé en masse à vos gardiens. Votre Majesté ne peut se figurer l'effet produit dans un bal masqué par 8 orangs-outans enchaînés que la plupart des assistants prennent pour de véritables bêtes, se précipitant avec des cris sauvages à travers une foule d'hommes et de femmes coquettement et somptueusement vêtus. Le contraste n'a pas son pareil.
« Cela sera !»
dit le roi, et le conseil se leva en toute hâte, car il se faisait tard, pour mettre à exécution le plan de Hop Frog. Sa manière d'arranger tout ce monde en orang-outan était très simple, mais très suffisante pour son dessein. À l'époque où se passe cette histoire, on voyait rarement des animaux de cette espèce dans les différentes parties du monde civilisé. Et comme les imitations faites par le nain étaient suffisamment bestiales et plus que suffisamment hideuses, on crut pouvoir se fier à la ressemblance.
Le roi et ses ministres furent d'abord insinués dans des chemises et des caleçons de tricot collant. Puis, on les enduisit de goudron. À cet endroit de l'opération, quelqu'un de la bande suggéra l'idée de plumes.
Mais elle fut d'abord rejetée par le nain, convainquit bien vite les 8 personnages par une démonstration oculaire que le poil d'un animal tel que l'orang-outan était bien plus fidèlement représenté par du lin. En conséquence, on en étala une couche épaisse par-dessus la couche de goudron. On se procura alors une longue chaîne. On la passa autour de la taille du roi et on l'y assujettit. Puis autour d'un autre individu de la bande et on l'y assujettit également. Puis successivement autour de chacun et de la même manière. Quand tout cet arrangement de chaînes fut achevé, en s'écartant l'un de l'autre aussi loin que possible, ils formèrent un cercle. Et pour achever la vraisemblance, Hop Frog fit passer le reste de la chaîne à travers le cercle, en deux diamètres à angle droit, d'après la méthode adoptée aujourd'hui par les chasseurs de Bornéo qui prennent des chimpanzés ou d'autres grosses espèces. La grande salle, dans laquelle le bal devait avoir lieu, était une pièce circulaire, très élevée, et recevant la lumière du soleil par une fenêtre unique, au plafond. La nuit, c'était le temps où cette salle trouvait sa destination spéciale, elle était principalement éclairée par un vaste lustre, suspendu par une chaîne au centre du châssis et qui s'élevait ou s'abaissait au moyen d'un contrepoids ordinaire. Mais pour ne pas nuire à l'élégance, ce dernier passait en dehors de la coupole et par-dessus le toit. La décoration de la salle avait été abandonnée à la surveillance de Tripetta. Mais dans quelques détails, elle avait probablement été guidée par le calme jugement de son ami le nain. C'était d'après son conseil que, pour cette occasion, le lustre avait été enlevé.
l'écoulement de la cire, qu'il eût été impossible d'empêcher dans une atmosphère aussi chaude, aurait causé un sérieux dommage aux riches toilettes des invités, qui, vu l'encombrement de la salle, n'auraient pas pu tous éviter le centre, c'est-à-dire la région du lustre. De nouveaux candélabres furent ajustés dans différentes parties de la salle, hors de l'espace rempli par la foule. Et un flambeau, d'où s'échappait un parfum agréable, fut placé dans la main droite de chacune des cariatides qui s'élevaient contre le mur, au nombre de 50 ou 60 en tout. Les 8 orang-outans, prenant conseil de Hop Frog, attendirent patiemment pour faire leur entrée que la salle fût complètement remplie de masques, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Mais l'horloge avait à peine cessé de sonner qu'ils se précipitèrent, ou plutôt qu'ils roulèrent tous en masse, car, empêchés comme ils étaient dans leur chaîne, quelques-uns tombèrent et tous trébuchèrent en entrant. La sensation parmi les masques fut prodigieuse et remplit de joie le cœur du roi. Comme on s'y attendait, le nombre des invités fut grand, qui supposèrent que ces êtres de mine féroce étaient de véritables bêtes d'une certaine espèce, sinon précisément des orang-outans. Plusieurs femmes s'évanouirent de frayeur, et si le roi n'avait pas pris la précaution d'interdire toutes les armes, lui et sa bande auraient pu payer leur plaisanterie de leur sang. Bref, ce fut une déroute générale vers les portes. Mais le roi avait donné l'ordre qu'on les fermât aussitôt après son entrée. Et, d'après le conseil du nain, les clés avaient été remises entre ses mains. Pendant que le tumulte était à son comble et que chaque masque ne pensait qu'à son propre salut, car en somme, dans cette panique et cette cohue, il y avait un danger réel, on aurait pu voir la chaîne qui servait à suspendre le lustre et qui avait été également retirée, descendre jusqu'à ce que son extrémité recourbée en crochet fût arrivée à 3 pieds du sol. Peu d'instants après, le roi et ses 7 amis, ayant roulé à travers la salle dans toutes les directions, se trouvèrent enfin au centre et en contact immédiat avec la chaîne. Pendant qu'ils étaient dans cette position, le nain, qui avait toujours marché sur leurs talons, les engageant à prendre garde à la commotion, se saisit de leur chaîne à l'intersection des 2 parties diamétrales. Alors, avec la rapidité de la pensée, il y ajusta le crochet qui servait d'ordinaire à suspendre le lustre. Et, en un instant, retirée comme par un agent invisible, la chaîne remonta assez haut pour mettre le crochet hors de toute portée. Et, conséquemment, enleva les orang-outans tous ensemble, les uns contre les autres et face à face. Les masques, pendant ce temps, étaient à peu près revenus de leur alarme. Et comme ils commençaient à prendre tout cela pour une plaisanterie adroitement concertée, ils poussèrent un immense éclat de rire en voyant la position des singes.
« Gardez-les-moi !» cria alors Hop Frog, et sa voix perçante se faisait entendre à travers le tumulte. « Gardez-les-moi, je crois que je les connais, moi. Si je peux seulement les bien voir, moi, je vous dirai de suite qui ils sont. »
Alors, chevauchant des pieds et des mains sur les têtes de la foule, il manœuvra de manière à atteindre le mur. Puis, arrachant un flambeau à l'une des cariatides, il retourna comme il était venu vers le centre de la salle, bondit avec l'agilité d'un singe sur la tête du roi et grimpa de quelques pieds après la chaîne, abaissant la torche pour examiner le groupe des orang-outans et criant toujours « Je découvrirai bien vite qui ils sont !» Et alors, pendant que toute l'assemblée, y compris les singes, se tordait de rire, le bouffon poussa soudainement un sifflement aigu. La chaîne remonta vivement de 30 pieds environ, tirant avec elle les orang-outans terrifiés qui se débattaient et les laissant suspendus en l'air entre le châssis et le plancher. Hop Frog, cramponné à la chaîne, était remonté avec elle et gardait toujours sa position relativement aux 8 masques. Rapatant toujours sa torche vers eux comme s'il s'efforçait de découvrir qui ils pouvaient être. Toute l'assistance fut tellement stupéfiée par cette ascension qu'il en résulta un silence profond d'une minute environ. mais il fut interrompu par un bruit sourd. Une espèce de grincement rauque, comme celui qui avait déjà attiré l'attention du roi et de ses conseillers quand celui-ci avait jeté le vin à la face de Tripetta. Mais dans le cas présent, il n'y avait pas lieu de chercher d'où partait le bruit. Il jaillissait des dents du nain, qui faisait grincer ses crocs comme s'il les broyait dans l'écume de sa bouche et dardait des yeux étincelants d'une rage folle vers le roi et ses 7 compagnons dont les figures étaient tournées vers lui.
« Ha 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 !» dit enfin le nain furibond. « Ha ha ! Je commence à voir qui sont ces gens-là maintenant !»
Alors, sous prétexte d'examiner le roi de plus près, il approcha le flambeau du vêtement de lin dont celui-ci était revêtu et qui se fondit instantanément à une nappe de flammes éclatantes. En moins d'une demi-minute, les 8 orang-outans flambaient furieusement au milieu des cris d'une multitude qui les contemplait d'en bas, frappée d'horreur et impuissante à leur porter le plus léger secours. À la longue, les flammes, jaillissant soudainement avec plus de violence, contraignirent le bouffon à grimper plus haut sur sa chaîne, hors de leur atteinte. Et pendant qu'il accomplissait cette manœuvre, la foule retomba pour un instant encore dans le silence. Le nain saisit l'occasion et prit de nouveau la parole.
« Maintenant, dit-il, je vois distinctement de quelle espèce sont ces masques. Je vois un grand roi et ses 7 conseillers privés. Un roi qui ne se fait pas scrupule de frapper une fille sans défense et ses 7 conseillers qui l'encouragent dans son atrocité. Quant à moi, je suis simplement Hop Frog, le bouffon. Et ceci est ma dernière bouffonnerie. »
Grâce à l'extrême combustibilité du chanvre et du goudron auquel il était collé, le nain avait à peine fini sa courte harangue que l'œuvre de vengeance était accomplie. Les 8 cadavres se balançaient sur leurs chaînes, masses confuses, fétides, fuligineuses, hideuses. Le boiteux lança sa torche sur eux, grimpa tout à loisir vers le plafond et disparut à travers le châssis. On suppose que Tripetta, en sentinelle sur le toit de la salle, avait servi de complice à son ami dans cette vengeance incendiaire. Et qu'ils s'enfuirent ensemble vers leur pays, car on ne les a jamais revus.